7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Gros plan aujourd'hui sur la société japonaise et en particulier sur un bien devenu rare, les Japonais jeunes. Plus de 4 ans après le drame de Fukushima, comment se portent les jeunes Japonais? Avec un taux de natalité parmi les plus bas du monde, un net penchant pour le suicide qui touche 18% des jeunes de 15 à 34 ans et un manque d'appétit pour la vie amoureuse, pas facile de comprendre où va la jeunesse japonaise. Dans une société de la performance, de la maîtrise de soi. Nous allons en parler avec une universitaire française qui les côtoie depuis près de 40 ans. Bonjour Muriel Jolivet.
Bonjour.
Vous êtes de passage en France et on est ravis de vous accueillir dans le studio des 7 milliards de voisins à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre. C'est le quatrième sur le Japon. C'est bien ça?
C'est le troisième d'une série de, comme ça, de petits paysages de ce qui se passe. Mais bon, enfin, j'en ai d'autres sur des hommes, sur les mères, sur les jeunes. Enfin,
toujours sur le Japon.
Sur une autre série.
Là, ce tome s'appelle Confidence du Japon et vous enseignez la sociologie française à Tokyo à l'université Sophia. Et vous êtes mère de deux filles franco-japonaises et vos confidences sur ce pays que les Occidentaux connaissent si mal nous mènent. D'ailleurs, je dois dire, au fil de vos pages, de surprise en surprise, on vous sent vous-même d'ailleurs déconcerté parfois après tant d'années passées au Japon.
J'observe le mouvement de la société, enfin les évolutions, avec la même curiosité qu'il y a 40 ans. Tout m'intéresse, tout me fascine et j'attrape dès qu'il y a quelque chose de nouveau, j'accroche tout de suite.
Bien que vous en connaissiez tous les codes, à commencer par la langue que vous maîtrisez parfaitement.
Oui, ça, enfin la langue, je fais mes cours en japonais, donc oui, il n'y a pas de problème, mais disons qu'on n'a jamais fini de connaître quelque chose qui vous fascine.
Ouais. Vous citez par exemple un de vos étudiants qui a choisi d'étudier dans le département de français, donc avec vous, tout en vous expliquant que finalement ce qui fera la différence dans un entretien d'embauche, c'est son profil de sportif qui s'entraîne tard le soir et qui dort très peu. Évidemment, oui. Vous êtes assez vexée dans ces cas-là.
Alors, j'ai été très vexée. Enfin, j'ai présenté la chose en disant « Amefutto au service de l'économie japonaise ». C'était une parodie du titre de mon premier livre « L'économie au service, l'université au service de l'économie japonaise ». Et en fait, Amefutto, c'est American Football. Et il est baraqué, enfin, il est... Et il m'explique, je lui disais, mais enfin, vos entretiens d'embauche, le français, ça a quand même eu un... Je lui dis, dites-moi quand même que ça a servi à quelque chose. Ah non, madame, mais pas du tout. Alors je lui dis, mais enfin, qu'est-ce qui a servi? Ben, le fait que je sois résistant, que je sois capable de m'entraider 3h30 tous les soirs, etc., etc. Donc, en fait, ce qui a compté, effectivement...
Le physique,
c'est
l'organisme.
Le fait qu'il soit baraqué, capable éventuellement de travailler la nuit, de résister, etc. Donc ça, c'était beaucoup plus important que le fait qu'il sache quelques mots de français.
Voilà. Alors vous-même, vous n'êtes pas baraqué, Muriel Jolivet, mais je sais que vous pratiquez les arts martiaux au Japon, notamment le combat à l'épée, me semble-t-il.
Maintenant, c'est le tai chi, mais avec une épée, oui, tsurugi en japonais. Oui.
Jean-François Sabouret, également dans le studio des 7 milliards de voisins. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue spécialiste du Japon, directeur de recherche émérite au CNRS et directeur du réseau Asie-Imasi. Les médias occidentaux, c'est vrai, ont surtout depuis plusieurs années les yeux rivés sur les évolutions de la société chinoise, ou plutôt de cette Chine plurielle. Et vous avez publié, juste avant l'accident de Fukushima, Japon, la fabrique des futurs, aux éditions du CNRS. Aujourd'hui, les jeunes japonais ont-ils le sentiment d'avoir un futur?
Moi, je le pense quand même. Je partage ce que dit Muriel Jolivet, mais en même temps, le gros de la troupe japonaise, si j'ose dire, quand même, il y a encore des emplois, pas toujours à vie, ça elle le dit, mais néanmoins, la caravane Japon avance, et donc les gens qui font les grandes universités, les bonnes universités, trouvent majoritairement encore de l'emploi à vie. Mais c'est vrai que il y a un problème qui se pose, et ça aussi Muriel Jolivet le dit, c'est-à-dire que on est diplômé d'université de 4 ans, puisque c'est à partir de 22 ans qu'on est embauché. Et puis après, eh bien, comme on trouve pas vraiment du travail, on remet le couvert, si j'ose dire, sur des études plus longues où on sait pas trop où ça va aller, etc. Et donc, là, il y a une...
La caravane du Japon avance. J'aime bien cette expression. En tout cas, elle n'a pas fini de nous surprendre dans cette émission. Les voisins, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos invités. Soit vous nous appelez, très simple, au 33 1 84 22 71 71, ou bien vous postez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et puis, en fin d'émission, entretien avec le dissident chinois Cheng Wancheng, exilé aux États-Unis. Il revient sur les deux grands combats de sa vie, la cause des personnes handicapées et la violence de la politique de l'enfant unique en Chine. Deux combats qui ont fait de lui un avocat aux pieds nus. C'est le titre de son livre qui vient de paraître en français. Muriel Jolivet et Jean-François Sabourin, on a beaucoup de questions intéressantes autour du Japon, puisque c'est le sujet de notre émission aujourd'hui, et autour de tradition et modernité, bien sûr. Ibrahim à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous dit « Le modèle japonais est impressionnant pour moi. L'hypermodernité du pays ne lui fait pas perdre ses valeurs culturelles et traditionnelles. Contrairement aux pays africains, ils savent faire la part des choses et n'imitent pas le modèle européen ou nord-américain. » Ça, ça revient beaucoup dans les questions de nos auditeurs en Afrique subsaharienne. Afaka, qui est à Yaoundé, au Cameroun, nous dit « Comment vivent les jeunes au Japon, pays qui a longtemps été baigné dans un climat rempli de valeurs traditionnelles ?» Question donc. Encore Moulou, qui est dans le sud-est de la Guinée, Conakry. « Qu'est-ce qui motive les Japonais à respecter leurs traditions au lieu de suivre la modernité jusqu'au bout ?» Vous allez tempérer et répondre, hein, bien sûr. Djibril à Kaye, au Mali. « Le passé est-il un poids ou un atout pour les jeunes Japonais ?» Muriel Jolivet.
Si vous voulez, la tradition et la modernité, les jeunes ont plutôt tendance à foncer dans la modernité. Les traditions, vous savez, quand je demande à mes étudiants qui a été voir du kabuki ou du no, il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a peut-être un sur une classe de 40. Vous
pouvez expliquer ce que c'est que le kabuki?
Le kabuki, c'est le théâtre traditionnel japonais qui est absolument magnifique, merveilleux. Ça, c'est toute la culture japonaise. Pour maintenant, vous voyez, la culture japonaise, on pense un peu manga, les bandes dessinées. C'est très dommage. Parce
et American football, pour revenir à votre anecdote du début.
Voilà, donc, vous savez, les jeunes, ils foncent plutôt dans les plaisirs immédiats, dans la nonchalance, dans profiter du moment. Ce qui est essentiel pour eux, c'est profiter de leur liberté, parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils travailleront, ils entreront dans la machine à broyer, et que là, ça va pas rigoler.
Jean-François Sabouret, pour les questions des auditeurs.
Je prolonge ce que dit Muriel, c'est-à-dire qu'ils sont dans la période de moratorium, de 18 ans à 22 ans, et puis après, la machine à broyer ou à reformater les gens, on les emploie dans les entreprises en disant « on est bien d'accord, on vous emploie, vous ne savez rien ». Et maintenant, nous allons vous emplir de notre savoir. Et ça, de plus en plus de jeunes ont du mal à le supporter, à le vivre. Et il y en a certains qui, au bout de 3 ans, laissent tomber le travail. Donc, ils sont dans le respect des traditions. Si on veut, moi, j'ai un de mes étudiants que j'aimais beaucoup et qui a enterré sa grand-mère. Un jour, il n'est pas venu en cours. Il me dit « J'ai enterré ma grand-mère. » Ah bon ? Et je dis bon, c'est une raison sûrement pour ne pas venir en cours. Et je dis mais quelle était sa secte ? Elle était bouddhiste. Ah oui, dis ça, je sais pas.
Ah oui,
mon grand-père, lui, il était. Je crois que c'est une secte différente. Ah, oh, j'en sais rien du tout. Mais pourquoi vous voulez savoir ça? Je dis, non, simplement si vous dites que votre grand-mère était bouddhiste. Mais je dis vous avez assisté, donc vous avez bien vu. C'était Jodo Shinshu, c'était la secte de la Terre pure. Oh, vous m'emmenez. On a emmené grand-mère aussi. On l'a incinéré. Puis voilà, c'est tout. Donc le respect des traditions. Oui, d'une certaine façon, comme nous en France, dans la France profonde, on aime bien, je sais pas, danser des bourrées. Écouter de la vielle de temps en temps, mais on n'en fait pas sa vie quand même. Et donc les jeunes japonais sont dans une modernité fragile. C'est cela, parce que si c'est ça la modernité, de faire du American football et tout cela. Mais néanmoins, et ça, il y a toute une discussion politique derrière. Le Premier ministre, M. Abe Shinzo, veut re-japoniser ces Japonais. On va commencer par changer peut-être la Constitution, et puis après, on va enseigner les arts martiaux dans les écoles davantage, les remobiliser. Moi, j'ai posé la question à des collègues, parce que je m'intéresse un peu à l'éducation, ils me disent, de toute façon, ça ne marchera pas, c'est trop tard.
Alors, est-ce qu'on peut parler, plus de 4 ans après le séisme et l'accident nucléaire de Fukushima, d'un impact durable sur la société japonaise, dans les mentalités, dans l'intime collectif des Japonais, Muriel Jolivet?
Moi, je pense que bon, il y a une faculté extraordinaire au Japon de rebondir. Hein, c'est-à-dire que, eh ben, il faut aller de l'avant. De toute façon, on est tous dans la même barque. Bon, moi, j'étais à Fukushima. Enfin, j'étais à Tokyo pendant. J'étais en bibliothèque quand le tremblement de terre est arrivé. Les bâtiments ont vraiment énormément bougé. On nous a demandé d'évacuer immédiatement par les escaliers. Et puis, ça continuait encore. On se regardait tous. On était verts. On disait là, ça, c'est grave. C'est ce qui se passe. C'est vraiment très grave. Et bon, on a tous été bouleversés à des degrés plus ou moins divers, mais la vie a repris. C'est-à-dire, ça, c'est une faculté aussi très asiatique. Les gens rebondissent vite. On essaye de vivre au présent, de pas trop se projeter sur l'avenir. Moi, je pense que dans l'inconscient collectif, quand même, Fukushima a eu un impact, dans le sens dont on ne parle jamais, d'ailleurs, mais le fait qu'il y ait une si grande baisse de naissance, que ça ne remonte pas, malgré tous les plans du gouvernement, ils ont fait des angel plans, enfin des tas de trucs, rien n'a marché. Les gens n'ont plus envie d'avoir des enfants, de se reproduire.
C'est le non-désir d'enfants.
Je pense qu'il y a quelque impact dans l'inconscient collectif de ce côté-là. Pourquoi faire des enfants alors que on n'est pas sûr
quelle est la peur des radiations qui pourraient toucher l'enfant à naître ou...
Inconsciemment. Plus les volcans qui se réveillent petit à petit, il y en a plusieurs autour de Tokyo, il y a aussi Kagoshima, on se dit que bon, on est quand même sur une espèce de poudrière qui est en ébullition.
Jean-François Sabouret.
Tout un courant de Japonais qui sont dits de gauche et qui militent contre le nucléaire, qui militent pour que on ne fasse pas démarrer les centrales nucléaires avec à la tête Oe Kenzaburo et Kamata Satoshi, donc qui ne veulent pas de ces choses-là, et qui me disent, Kamata Satoshi qui est un bon ami, me dit, mais de toute façon, 127 millions de Japonais, c'est trop, si on était 90 millions, ça irait beaucoup mieux. Donc, ils ont pas peur. Je dis, mais avec 1,4 milliard de voisins à côté chinois, ça fait pas peur. Mais non, dit, ça c'est du discours. Les Japonais, les Chinois n'oseront jamais nous attaquer. Puis nous développons aussi les armes automatiques, etc. On n'a pas besoin d'être de 10 Chinois contre un Japonais. Ça c'est le discours. Mais, ce que Fukushima a révélé, c'est, après l'élan international, mondial, d'aide à tous ces gens qui étaient perdus, et tout ça a révélé l'individualité des gens, chacun, sauf qui peut. Moi, je vais régulièrement, quand je vais au Japon, je vais dans la région du Tohoku, et je peux vous dire qu'ils ont vraiment souffert. Il y en a qui sont, après 4 ans, dans ce qu'on appelle des maisons, des appartements kasetsujutaku, des maisons provisoires, et qui n'ont rien, et qui n'ont pas grand-chose, et qui disent, mais moi, je préférais mourir, parce que là moi, je vois pas à quoi sert ma vie maintenant. Et puis surtout, c'est que les Jeux Olympiques, moi je crois bien naïvement que c'était une bonne nouvelle. Coupe du monde de football, de rugby en 19, et Jeux Olympiques en 20. Je dis, attendez, ça va apporter un élan économique. Ils ont dit dans le Tohoku, mais non, pas du tout, c'est une catastrophe, parce que tous les gens dans le bâtiment qui gagnent de l'argent, ils vont à Tokyo, tout ça, de toute façon, et là il a explosé, il n'y en a que pour Tokyo. L'électricité, la centrale nucléaire de Fukushima, où allait l'électricité d'après vous, c'est pas pour nous, c'était pour Tokyo. Il y en a marre de Tokyo.
Voilà. Un grand pessimisme, et vous disiez un règne de l'individualisme. Alors, Fukushima ou pas, de toute façon, il y a depuis plusieurs années un problème entre, on va dire, puisqu'on parle des jeunes générations aujourd'hui, entre les garçons et les filles. Un homme sur 5 est célibataire à vie au Japon, une femme sur 10. Les femmes sont de moins en moins pressées de se marier. Le mariage arrangé tel qu'il a survécu pendant de longues années n'existe plus, pour ainsi dire, plus.
5%.
Alors, oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, comment les femmes se projettent, comment les jeunes japonais se projettent à deux, avec une vie amoureuse ou pas
Mais c'est-à-dire que la grande différence, si vous voulez, c'est que en France, d'abord, on ne se marie plus, et si les jeunes peuvent ne pas être mariés, mais ils sont en couple. Au Japon, c'est encore rarissime. Hein. La cohabitation, il y a quelque chose comme 1% de cohabitants.
Mais bien au-delà, vous citez un chiffre incroyable, 64% des jeunes de 18-34 ans disent qu'ils n'ont pas de petite amie.
Oui. Alors autrefois, quand il y avait les mariages arrangés, les gens pouvaient donc avoir l'occasion de se rencontrer. Ils disent maintenant tous disent Deaiganai, on ne sait pas où rencontrer les gens. Alors,
ont-ils seulement l'envie?
Alors, et pourtant, jamais autant au Japon, on a organisé ce qu'on appelle des gokon, c'est-à-dire des mariages, des endroits où on peut se rencontrer, discuter, etc. Et alors, vous avez toutes sortes de possibilités. Vous avez même, alors, si vous avez envie d'épouser un bonze, alors il y a les gokon pour bonze, il y a jijakon avec donc bonze shintoïste ou bouddhiste. Vous avez les jeikon avec la jieta et l'armée de réserve, si vous flashez sur les militaires, etc. Il n'y a jamais eu autant de choses organisées en plus par le gouvernement. Et les jeunes disent jamais d'occasion de rencontre.
On va y revenir. Vous pouvez nous appeler, les voisins, les voisines, si vous souhaitez questionner en direct nos invités, Muriel Jolivet, Jean-François Sabouret. On parle des jeunes générations au Japon et vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Alors on découvre des choses tout de même assez singulières dans vos confidences du Japon, Muriel Jolivet. Qui sont les herbivores, les carnivores et les choux farcis? Il ne s'agit pas du tout d'alimentation.
Les herbivores, c'est Soshokudanshi, c'est des jeunes gens qui sont pas très intéressés par les jeunes filles, enfin qui sont plus intéressés, ils sont très égocentriques, très narcissiques.
Pas du tout intéressés par la sexualité en général.
Et ils ont peur aussi de se faire mal. Ils ont peur de se brûler au feu de l'amour, ils ont peur de souffrir, donc pour, quitte à souffrir ou à se faire repousser par une jeune fille, ils préfèrent rester seuls. Et alors, les carnivores, c'est ceux
qui attaquent. Donc ceux-là, ils restent devant leur internet, leur tablette, avec des espèces de fast-food avec eux, enfermés dans leur chambre. C'est un peu ça, non? Pas forcément?
Non. Les filles, ils les considèrent comme des copines, des amis. Ils sortent ensemble, mais il n'est pas question de flirter. Donc, ils sont comme frères et sœurs.
Voilà.
Et les carnivores, c'est ceux qui attaquent. Et il y en a de moins en moins. Mais on dit que c'est les filles qui sont carnivores. D'ailleurs, j'ai une étudiante qui m'écrivait, elle m'écrivait son autobiographie de l'avenir, et elle disait, je fréquente un jeune homme et tout, et il me fait toujours pas de déclaration, donc je sens qu'il est temps que je lui fasse une déclaration en mariage. Alors je dis, c'est intéressant quand même que ce soit les jeunes filles maintenant qui demandent en mariage un jeune homme qui a peur de se déclarer.
Et les choux farcis?
Alors les choux farcis, c'est extérieurement, ils sont herbivores, mais intérieurement, ils sont carnivores, voilà. Enfin, ça, c'est une façon amusante de dire que ceci. Parce qu'il paraît que les herbivores ont beaucoup de succès. Il vaut mieux se déguiser en herbivore, même si on est carnivore.
C'est-à-dire se déguiser en garçon totalement désintéressé.
Efféminé, un petit peu efféminé. Maintenant, ils mettent des skinny jeans.
Toujours les jeans très étroits. Ouais. Toujours cet engouement pour les très jeunes filles, les Lolita, le look Lolita.
Ben ça, c'est plutôt ceux qui ont 40 ans qui flashent sur ces petites filles, Ikebi, tout ça, c'est voilà.
Ouais. On peut avoir des relations virtuelles aujourd'hui avec un garçon avec une fille grâce à des logiciels où en gros on a une petite amie sur un logiciel.
Ah oui, ça c'est Love Process.
Vraiment.
Ah oui. Ah non. Et puis alors il y en a même un qui est allé faire son mariage sur un site, etc. Ils peuvent vraiment basculer dans le virtuel complètement.
Alors bien évidemment, ces jeunes japonais subissent depuis très jeunes une intense pression scolaire.
Oui.
Quel que soit d'ailleurs leur avenir universitaire. Moins aujourd'hui.
Moins.
Ça tend à...
Moins, il y en a qui réussissent à rentrer sans trop se fatiguer et qui en sortent sans trop se fatiguer non plus.
À l'université?
Oui. Ce qui compte, l'université, c'est comme une marque Dior, Armandi. Ça vous aide à trouver du travail.
Brando. Mais toujours quand même les petits cours du soir qui occupent beaucoup la vie des jeunes japonais.
Oui, pour ce qui est d'éducation, ça concerne les concours et la vie, ce que j'appelais la vie triangulaire entre les juku, les yobiko, c'est-à-dire les academia à Japon, mais qui ont précédé academia depuis 40 ans, 50 ans même. Ça existe, ça concerne 15-20% de la population, ce qui est pas mal déjà.
Ouais, on va y revenir
mais
sur cet
il y a des jeunes qui sont
scolaire,
dans les quartiers périphériques qui eux n'ont pas envie d'étudier, ils savent très bien car en collège à leur classe de 4e, 3e deuxième. Ouais. Les carottes japonaises sont cuites et c'est pas utile
de. Et c'est tout le problème de la pauvreté au Japon. On va y revenir également. Muriel Jolivet, Jean-François Sabouret, suite de vos analyses et de vos confidences juste après le flash dans 3 minutes. Les voisins vous posent toutes vos questions sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Restez avec nous.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, suite de nos confidences sur la société japonaise et les jeunes générations. C'est le titre de votre ouvrage, Confidences du Japon, Muriel Jolivet. Vous enseignez à l'université Tokyo, l'université jésuite d'ailleurs, à Tokyo. Vous vivez au Japon depuis près de 40 ans et les jeunes générations continuent de vous surprendre, pas seulement les étudiants que vous côtoyez d'ailleurs. Jean-François Sabouret, vous êtes sociologue spécialiste du Japon. Un auditeur nous appelle au 33 84 22 71 71 et souhaiterait avoir votre point de vue sur une question. Bonjour Caiolo.
Bonjour Emmanuel, bonjour le voisin.
Caiolo, vous êtes instituteur à Dano dans le sud-ouest du Burkina Faso et vous souhaitez poser une question à nos invités.
Exactement Emmanuel. Je voudrais savoir comment la jeunesse japonaise a partagé ses compétences avec celle du Sud, notamment africaine, quoi.
À quoi vous pensez exactement parce que c'est vrai qu'en sur le continent subsaharien, on voit, à la différence des Chinois, on voit peu de Japonais. À quoi vous pensez vous pensez plutôt un partage de compétences via Internet, les échanges? À quoi pensez-vous, Caiolo? On a perdu la ligne de Caiolo, qui est dans le sud-ouest du Burkina Faso. Jean-François Sabouret. Muriel Jolivet.
On peut partager les compétences de bien des façons. S'il s'agit d'apprendre des choses, les gens en Afrique, par exemple dans les arts martiaux, ça c'est très important, à un très haut niveau où il y a la compétition, il y a des choses importantes à apprendre. Dans la cuisine, puisqu'on parle de cuisine japonaise, c'est maintenant entré à l'UNESCO, le washoku. Là aussi, j'ai eu en mémoire que avoir mangé du poisson cru à Dakar, donc ça veut dire qu'on aime bien cette chose-là, mais c'est le poisson cru, c'est pas justement un poisson qu'on coupe comme ça très facilement. On apprend ça en une semaine, c'est plusieurs années d'apprentissage pour préparer le poisson. Peut-être que les Japonais, pour les pays côtiers de l'Atlantique, pourraient développer des choses comme cela. Il y a plein de choses qu'ils peuvent apprendre.
Bien sûr, les Africains pensent aussi beaucoup à la réussite économique du Japon, à sa maîtrise technologique.
Il y a des universités au Japon qui maintenant sont ouvertes de plus en plus aux étrangers. Il est vrai que les étrangers, c'est essentiellement des Chinois et des Coréens à 80%, mais il y a l'université comme celle de Ritsumeikan, une grande université privée de Kyoto, qui a fait une université annexe en quelque sorte, où ils mixent les Japonais et des étrangers pour qu'ensuite, après, ils créent une sorte d'un Japon plus international.
Muriel Jolivet. D'Afrique, moi je dirais des choses très simples. Par exemple, l'exactitude. Les Japonais sont très ponctuels, vous voyez. Et je me souviens d'un Africain arrivant un quart d'heure en retard au rendez-vous.
C'est valable pour les Français aussi, le message.
Les Japonais, ils étaient dans tout leur état. Et puis, je savourais mon thé. C'était l'excuse du quart. Au Japon, c'est impensable. C'est-à-dire des choses comme ça. Arriver à l'heure, la discipline. Jean-François a parlé des arts martiaux. Les arts martiaux, c'est quelque chose de fabuleux dans le sens que vous avez aussi toujours cette impression qu'on peut toujours progresser, on peut toujours faire mieux.
Dépassement
de soi et aussi on peut y arriver, c'est-à-dire ce n'est pas réservé à une élite. Tout le monde, en faisant les efforts suffisants, peuvent y arriver. Et je crois que c'est tout le dynamisme du Japon est là.
Et ça veut dire aussi que, par exemple, sur le plan de l'éducation, qu'on n'a pas l'idée d'un destin scolaire qui est scellé très jeune, comme nous le serinent les sociologues, par exemple, sur le système français, Jean-François Sabouret.
On laisse croire aux jeunes japonais que s'ils travaillent bien, ils pourront aller à l'université. Les analyses un peu plus poussées montrent que les choses sont jouées très 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 tôt. Si vous mettez votre enfant dans une école privée, même un jardin d'enfants privé, où on fait apprendre l'anglais ou à compter à l'enfant, ça va l'aider ensuite à franchir et à franchir toutes les étapes pour arriver jusqu'à la grande université de Tokyo.
Avec beaucoup de petits cours
le tracking system.
Ça, avec hein, beaucoup donc, de cours supplémentaires le soir, hein,
avec
en plus de l'école obligatoire.
Pas seulement des cours supplémentaires dans les juku ou les yobiku, mais des gens qui viennent à la maison. Il y en a qui ont ces choses-là. Et puis l'été, c'est un parcours du combattant incroyable. Mais encore une fois, ces enfants qui à 12, 13 ans, 14 ans, à l'époque vraiment où on s'extériorise, sentent bien que les résultats à l'école ne sont pas là, c'est pas eux qui vont aller dans les juku. Bon, les parents n'ont pas les revenus, mais n'iront pas dans les juku. Donc ça concerne, cet enfer des concours concerne peut-être 30% de la, j'ai pas les 20-30% de la population, pas plus. Mais c'est déjà pas mal. Hein.
Alors nous sommes en ligne avec un jeune journaliste français qui s'est intéressé aux jeunes japonais et à la cuisine. Bonjour Amaury Baradon.
Bonjour.
Vous avez 27 ans, vous avez passé un an au Japon, un pays qui fascine bon nombre d'étudiants français pendant vos études à Sciences Po. Vous êtes passionné pour la cuisine japonaise avec des reportages, des enquêtes à Osaka. Osaka, c'est la ville de la gastronomie japonaise, c'est bien cela, Amaury?
C'est ça, c'est un peu la cuisine du Japon, c'est sa capitale gastronomique. La particularité d'Osaka, c'est qu'elle est quand même très très bien située sur l'archipel, entre mer et montagne. On y trouve des très bons produits. Et puis on y trouve également une cuisine plus populaire, une street food qui s'est développée aujourd'hui. Et ça reste la capitale gastronomique du Japon.
Alors vous avez fait un reportage sur une école extrêmement réputée et difficile pour former les nouvelles générations qui veulent devenir de grands chefs de cuisine japonais.
Exactement, l'école s'appelle Tsuji, elle forme l'élite des futurs chefs japonais, elle est basée donc à Osaka et on y vient de tout l'archipel, de l'étranger même pour venir y étudier. Et voilà, c'est une école où on apprend tout type de cuisine, japonaise, chinoise, française, on se spécialise. Tout ça, c'est un coût évidemment et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ce sens de la rigueur, de la perfection qu'il peut y avoir dans cette école, avec bien sûr les petits défauts qui vont avec. C'est vrai que pendant notre reportage, on a parlé à un professeur qui était là depuis 40 ans et qui nous disait qu'aujourd'hui, les jeunes prenaient moins d'initiatives, qu'ils attendaient que le professeur leur montre vraiment comment faire avant de se lancer. Voilà,
qu'ils étaient moins créatifs.
Moins créatifs, c'est ça, plus sages, plus naïfs qu'avant aussi. Ils pensent que voilà, tout va sortir tout de suite en sortant de l'école parfois.
Alors évidemment, d'un côté, on enseigne la cuisine classique, la gastronomie japonaise, mais en même temps, les jeunes s'alimentent comme beaucoup de jeunes sur la planète. C'est street food, junk food, à quoi ça ressemble? Quels sont les effets de mode à l'heure actuelle au Japon, mode alimentaire pour les jeunes générations?
Alors, c'est sûr qu'il y a une junk food qui s'est développée. Dans les petites épiceries de proximité, on va trouver de tout. C'est adapté à la sauce japonaise, des Kit Kat goût miso, des barres chocolatées au thé vert, etc. Ça, c'est pour les petites pauses, mais c'est vrai que pour les vrais repas, un jeune japonais a tout à fait la possibilité de manger équilibré, de manger vite et pas cher, parfois moins cher que chez lui. Alors, on trouve évidemment les mêmes fast-food que partout, les grandes enseignes de hamburgers qu'on connaît, mais contrairement à des pays comme la France, on a des alternatives japonaises. Par exemple, vous avez des fast-food qui vont vous proposer des gyudon, c'est un bol de riz avec des petites lamelles de bœuf. Vous pouvez avoir la même chose avec des anguilles grillées. Et puis, il y a tout ce qu'on peut manger vraiment sur le pouce, les boîtes bento, la street food que j'évoquais. Donc là-dedans, il y a tout ce qui est takoyaki, les petites boulettes de poulpe et de pâte.
Et puis avec des curiosités assez, on va dire, girly, qui plaisent beaucoup aux filles.
Bah c'est ça, évidemment, il y a des phénomènes de mode, mais c'est des phénomènes de mode qui touchent davantage les jeunes filles que les jeunes hommes. Voilà, elles vont voir une petite photo dans un magazine, elles vont avoir envie de tester le produit. Alors, il y a quelques années, c'était le pancake qui était très à la mode.
Bon, aujourd'hui, plutôt anglo-saxon, hein, le pancake, une espèce de crêpe épaisse, c'est à la base, c'est anglo-saxon.
Exactement, sauf que la photo qu'on pouvait voir dans le magazine, c'était un pancake avec de la crème chantilly, des fruits rouges, quelque chose de très sucré, de très doux, qui donne donc envie à ces personnes de faire la queue devant un café pendant pas mal de temps, pendant parfois une heure ou deux, pour pouvoir tester ce produit.
Amaury Baradon, on peut en savoir plus et voir des images et des vidéos de vos reportages sur votre site internet, ça s'appelle osaka-kitchen.net. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Vous souhaitez réagir, Muriel Jolivet, Jean-François Sabouret sur...
Ben moi, j'aime la cuisine japonaise, mais plutôt celle du Nord, qui est plus salée. Donc, j'ai commencé ma vie au Japon par le Hokkaido.
Mais vous ne faites pas partie des jeunes générations, c'est peut-être pour cela.
Dites-moi. Alors, voilà. Donc, j'ai la cuisine d'Osaka est différente de celle de Tokyo. Le grand plat, c'est konomiyaki. C'est plutôt sucré quand on va dans le Kansai, alors que dans le Nord, c'est plutôt salé. Donc, la cuisine Osaka comme centre de la cuisine japonaise, ça se discute très franchement. Mais on y fait de bonnes choses. Par contre, ce qui est intéressant, ce qu'a dit monsieur, c'est qu'on peut manger pour dans mon quartier à Tokyo, qui est pas loin d'ailleurs de l'université de Muriel Jolivet, je mange le soir pour 480 yens, c'est-à-dire 3,50 € à peu près, 3,60 €. Et le riz est à volonté, on peut se lever, on se sert. Il y a des lamelles de bœuf, comme il le dit. Quand on mangera à moins de 10 francs à Paris, vous me préviendrez.
10 €, vous voulez dire.
10 €, pardonnez-moi.
Muriel Jolivet, à plusieurs reprises, vous parlez de l'alimentation dans votre livre, mais c'est souvent corrélé finalement à une forme de désespoir des jeunes qui n'ont pas un grand moral et qui sont très seuls finalement.
Oui, alors si vous voulez, je continue sur l'alimentation. Enfin, j'ai deux choses à dire. Bon, les jeunes s'alimentent essentiellement dans les combini, c'est-à-dire les supérettes, les combini bento. Enfin, à l'heure du repas, il y a des queues, pas possible. C'est là, ils achètent leur repas en boîte. La vie est devenue très pratique. Les jeunes ne savent plus cuisiner. Enfin, ils n'apprennent pas, ils n'ont pas besoin. Ça, c'est le grand avantage de l'Asie, c'est qu'on mange beaucoup dehors.
On mange énormément. Mais là, on mange beaucoup seul aussi au Japon.
Mais ça
peut sembler inconcevable dans d'autres cultures de manger seul.
L'obsession de la ligne au Japon. Alors là, maintenant c'est une véritable obsession. Les filles sont vraiment mincissimes et donc elles font extrêmement attention à ce qu'elles, au point de vue de l'apport calorifique. Hein. Ceci dit, les Japonais sont très gourmands, ils sont très curieux. Par exemple, dans mon quartier, il y avait des frites belges pour manger des frites belges, il y avait des queues d'une heure et demie. Enfin, c'est quand même étonnant, quoi.
On parle de la solitude,
oui,
parce que c'est
sûr.
Omniprésent dans votre livre.
Oui,
il y a un business qui est en pleine expansion. Ce sont des entreprises qui se montrent, qui s'occupent de trier les affaires des personnes décédées, ce qu'on appelle les morts isolées.
Kodokushi.
Parce que personne pour venir chercher les affaires qui sont restées dans l'appartement, dans le logement, lorsque la personne est décédée. Aucun proche, aucune famille.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'ils sont morts et on découvre par hasard. Alors ça montre l'isolement des grandes villes. On ne sait pas qui est à côté de chez vous. Les gens ne se parlent pas. D'ailleurs, les gens viennent dans les grandes villes justement pour s'isoler. Beaucoup de, par exemple, des femmes qui ont divorcé, qui viennent de la campagne. À la campagne, ce serait invivable parce qu'il y a le stigma. Mais elles viennent à Tokyo pour se fondre dans la.
Mais alors, justement, cette solitude, elle est désirée ou subie? On ne sait pas très bien.
Elle peut être désirée, mais elle est en général aussi subie. Les gens sont très seuls. Puis alors, toute la technique moderne, les smartphones, etc., les gens sont constamment connectés sur des choses. Dans le métro, tout le monde est en train de pianoter sur son portable. Ça amplifie la solitude. Et les gens pensent qu'avoir des amis, c'est avoir sur son portable une centaine de personnes. Mais c'est pas du tout ça.
À tel point qu'on peut louer un ami pour une soirée ou une amie.
On peut louer une famille aussi. On peut louer une famille si la vôtre n'est pas présentable.
Il y a beaucoup de passages incroyables dans votre livre, notamment comment on peut louer les services d'un spécialiste pour apprendre à dialoguer avec son chien ou son chat, ça peut sembler incroyable, mais oui, les jeunes générations parfois en arrivent là. Jean-François Sabouret, je sais que vous êtes en pleine préparation d'une exposition qui se tiendra en octobre prochain à Paris, avec celui que l'on appelle un peu le Robert Doisneau japonais.
Oui. Il s'agit de Kikai Hiro, qui est un monsieur diplômé de l'université de Rosei, encore une fois pas très loin de l'université de Muriel Jolivet, et qui a fait philo, et qui a été camionneur, qui a été travailler sur des bateaux. Et lui, ce qu'il voulait, c'est, il savait pas trop quoi faire en sortant de l'université, et puis il a été fasciné par les photographies de Diane Arbus, qui est une grande photographe américaine. Il a dit, je veux faire ça. Donc, il a acheté un appareil avec son professeur de l'université, c'est-à-dire les liens forts qu'il y avait. Il a acheté un appareil à Hasselblad, et puis il a fait des photos de la ville basse. Vous savez qu'à Tokyo, il y a la ville haute et la ville basse. Donc, Muriel est plutôt dans la ville haute, là où il y a la bonne université des jésuites, pas loin du palais impérial. Et puis, Shitamachi, la ville basse, c'est ceux qui avaient les pieds dans l'eau, jadis, quand c'était une région de marais. Et donc, les gens modestes, pauvres, vivent là et vivaient là. Et il en reste encore un peu. Ça se transforme très, très rapidement. Mais lui, pendant 40 ans, autour d'un temple qui est très connu, le Sensoji, le temple Senso à Asakusa, il a photographié les gens qui venaient de la campagne, les Onobori-san, et puis aussi les gens qui étaient du quartier. Et donc, ces Japonais-là sont des Japonais qu'on ne voit pas dans les magazines.
Et
voilà.
Souvent pauvres. Et donc, aujourd'hui, les chiffres sont assez effrayants. Un enfant japonais sur 6 vit sous le seuil de pauvreté. L'exposition, en tout cas, n'a même pas manqué à la Maison de l'Industrie à Saint-Germain-des-Prés à Paris en octobre prochain. On va laisser des infos sur notre page RFI.fr, page 7 milliards de voisins. Jean-François Sabouret, Muriel Jolivet, vous restez encore avec nous jusqu'à la fin de l'émission, si vous le voulez bien. Et il y a quelques jours, vous le savez, le dissident chinois Cheng Wangcheng était de passage à Paris. C'était la semaine dernière, très précisément, à l'occasion de la sortie de son autobiographie. Nous l'entendons pour un entretien. Ce sera juste après « You Gonna Go My Way ». やりてえことしかやりたくねえ始まるゲーム才能ねえも知って混ざりたくて踏み出すアクセル江戸のハスはカクテル味は格別わかるゲスつながるベストシンクスのピースリユニオンワンライフいつでもいいぞスタンバイバンテンも止まんない冗談じゃ今さらすまない悪かないケツの座りなれラストスマイル本気と書いて読み方は自由じゃん頭なら柔軟笑ってられ心持ちチンピラにも男気を持ち千鳥なしなんぞいつものこと気取り風情は清水の城長減らずいてるわけじゃねえ楽しんでるだけたわけたまねはつまらねえしわからねえバカだっていいじゃん騒げ騒げ I'm gonna go my way C'est du rock japonais, Oni, qui veut dire le diable, nous dit Muriel Jolivet. You gonna go my way. Nous passons maintenant à la parole à l'une des grandes figures de la dissidence chinoise. Cheng Wangcheng était de passage à Paris la semaine dernière à l'occasion de la sortie de son autobiographie. D'ailleurs, une vie qui se lit comme un véritable thriller avec le récit spectaculaire de son évasion de la Chine vers les États-Unis après 4 ans de prison et un placement en résidence surveillée. Originaire de la province du Shandong au nord-est de la Chine, Cheng Wangcheng est né en 1971, c'est-à-dire en pleine révolution culturelle, dans une famille d'agriculteurs pauvres. Il devient aveugle à 5 mois à la suite d'une maladie infantile et donc il se retrouve privé d'éducation jusqu'à l'âge de 20 ans où il apprend le droit sur le tas. Et il a raconté au micro d'Alice Milo comment il est devenu un avocat aux pieds nus.
C'est parce que dans la société, il y a énormément de phénomènes d'injustice. Ces phénomènes d'injustice me pesaient beaucoup et je me suis dit que avec mes faibles moyens, j'allais essayer de redresser quelques injustices que je croisais. Il y a beaucoup de gens qui après sont venus me trouver. Il y avait des handicapés, il y avait des paysans, il y avait des petits ouvriers qui sont venus me demander conseil parce qu'ils avaient appris que je défendais ces injustices. Et c'est comme ça que je suis devenue avocat aux pieds nus. Je me disais qu'il fallait faire comprendre aux gens qu'ils avaient des droits, qu'il fallait élever leur connaissance dans ce domaine. Et concrètement, je pense que ce qui m'a frappé le plus personnellement, c'est l'enquête que nous avons fait autour des avortements forcés. Je considère qu'il s'agit d'une politique qui correspond à un crime contre l'humanité.
En Chine, la politique de l'enfant unique,
en fait, c'est même plus dur que ça. Même le premier enfant, quelquefois, peut être interdit si le gouvernement le décide ainsi. Et puis, le problème, c'est qu'il y a toute une administration qui tourne autour du planning familial. Et donc, ces fonctionnaires doivent faire leur travail, parce que si ils n'ont pas suffisamment de baisse de natalité, alors ils ne progressent pas dans leur travail. Du coup, ils utilisent les méthodes les plus violentes pour empêcher les femmes de concevoir ou d'accoucher. Et il y a beaucoup de parents qui ne voulaient évidemment pas avorter, mais on était absolument forcés à le faire. Les fonctionnaires pouvaient entrer de force dans la maison des paysans, chercher les femmes dans leur lit, les jeter dans une camionnette, les amener sur le lit d'accouchement pour les forcer à avorter. Certains enfants étaient déjà parfaitement formés, ils étaient viables, et donc quelques-uns, quand ils étaient extraits du ventre de leur mère, ils pleuraient encore. Les fonctionnaires pouvaient prendre ces bébés, leur tordre le cou ou les jeter dans un seau d'eau. Toutes ces méthodes sont totalement illégales et violentes. En l'espace de 6 mois, dans mon district, à l'époque, il y avait 130 000 femmes qui ont été forcées à avorter pendant l'année 2005. Mais malgré tout, je crois que à travers ces enquêtes et tout ce que nous avons dévoilé sur le comportement monstrueux du Parti communiste chinois, nous avons pu sauver la vie peut-être de 90 000 bébés qui ont eu l'occasion de naître parce qu'on avait un peu calmé la violence de la répression, et le fait d'avoir obtenu ce résultat, je me dis que c'était quand même pas mal joué.
Ce sont des choses qui n'arrivent plus.
En fait, le planning familial n'a jamais cessé. Aujourd'hui encore, le Parti communiste chinois se comporte de la même façon. Par exemple, les femmes sont obligées d'aller faire des examens gynécologiques tous les 3 mois pour qu'on vérifie si elles ne sont pas enceintes. Et si les femmes ne viennent pas au moment décidé par le gouvernement, on les poursuit comme si elles étaient des criminels. Et c'est toujours comme ça maintenant. Et donc, quand j'ai fait savoir tout cela au monde entier, que j'ai transmis ces informations, le Parti communiste était furieux contre moi. Et c'est bien pour ça qu'il s'est vengé d'une façon aussi violente à mon égard.
Cheng Guangcheng, vous avez perdu la vue, vous aviez 5 mois, vous vous êtes impliqué toute votre vie pour le droit des personnes handicapées. Quelles sont les injustices dont vous avez été victime ?
Les handicapés, je me souviens, à l'époque, les handicapés, évidemment, ne pouvaient pas participer aux travaux manuels. Mais malgré tout, on exigeait des familles qui payent les taxes pour les handicapés, et quelquefois, ils n'avaient pas les moyens tout simplement de payer les taxes. Mais peu importe, le gouvernement venait, quelquefois il frappait des handicapés, ou même il volait leurs choses à la maison pour compenser le manque de taxes payées. Et ce genre de méthode, c'était insupportable pour moi. Donc nous avons porté plainte contre le gouvernement, et c'est comme ça que j'ai quelque part commencé à défendre les droits des plus faibles.
Alors, suite à toutes ces actions-là, vous avez écopé de 4 ans de prison en tant que dissident politique, puis ensuite vous avez été placé en résidence surveillée à domicile, pendant laquelle vous et vos proches ont été victimes de maltraitance. Aujourd'hui, vous vivez aux États-Unis, après vous êtes enfui de Chine de manière tout à fait spectaculaire en 2012. Comment vous poursuivez votre combat aujourd'hui pour les droits de l'homme depuis les États-Unis, mais pour la Chine ?
Maintenant, je vis aux États-Unis. On peut dire que mon travail est facilité par le développement d'Internet. en Amérique, je peux contacter mes amis en Chine sans aucune difficulté, mes amis de Shandong, il y a aucune, c'est comme si j'étais là-bas en fait. Et bien sûr, je peux plus venir en aide à des gens pour des cas spécifiques, mais pour parler de la défense des droits en général, là, je peux toujours continuer à faire mon travail.
Cheng Guangcheng publie L'avocat aux pieds nus, c'est publié aux éditions du Globe en langue française. Jean-François Sabouret, vous êtes spécialiste du Japon, que vous évoque le témoignage de ce dissident chinois très célèbre maintenant.
Si j'avais une once d'humour, mais écoutez tout cela, je suis un peu terrorisé. Je dirais que tous ces enfants qui pourraient naître, on faudrait les envoyer au Japon, ça pourrait repeupler le Japon.
C'est vrai qu'après tout ce qu'on a dit sur le non-désir d'enfants au Japon...
Part, je me dis que la Chine, c'est un pays que j'aime beaucoup aussi. Parce que ce pays n'a pas encore été maté. On peut mater un pays avec les bâtons et tout cela, mais il n'a pas été maté et peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, une Muriel Jolivet vivant en Chine dira, ben voilà, les jeunes gens, ce sont des herbivores, ils s'intéressent pas aux filles, etc. Pour l'instant, c'est un pays qui se bat parce qu'il y a des différences énormes entre les gens de la ville, de Shanghai ou Pékin ou Nankin. Et donc ceux-là, on les contrôle bien parce qu'ils sont liés à l'État, fonctionnaires et autres. Mais à la campagne, très difficile de savoir combien les femmes ont d'enfants. Et quand des femmes dans les villes ont des enfants, elles vont accoucher à la campagne pour le confier l'enfant à une cousine, à une sœur, voire même une mère, etc. Donc j'en déduis maintenant que les Mingong, ceux qui viennent de la campagne pour travailler à la ville, les Mingong, eux, maintenant il n'y a plus de passeport intérieur et qu'ils peuvent aller partout. Donc c'est peut-être là le sens de cette répression. Mais je ne suis pas spécialiste, mais je vois que c'est un pays qui se bat. C'est extraordinaire ce que fait cet homme.
Muriel Jolivet, vos premières amours, c'était la Chine d'ailleurs, avant d'arriver au Japon il y a 40 ans et d'être spécialiste du Japon.
Oui, c'est, moi la Chine m'a toujours fascinée. J'ai fait du chinois quand j'étais au lycée, je l'ai passé au bac et j'ai continué au Langzhou jusqu'au DUG. Après, c'était plus gérable de faire les deux en même temps, donc je suis passée au japonais. Puis je me suis passionnée pour le japonais après et donc c'est dans cette voie.
Parce qu'il était difficile aussi pour une universitaire française de s'installer en Chine à l'époque.
Oui, on travaillait beaucoup sur les pensées de Mao. Enfin, c'était pas le programme. N'était pas du tout aussi intéressant que le programme japonais, ça c'est sûr. Puis partir en Chine, c'était vraiment partir vraiment à l'aventure. Mais non, j'ai gardé une fascination et j'ai toujours gardé d'ailleurs un contact avec la Chine parce que les arts martiaux, moi je fais du tai chi très intensément depuis 15 ans, mes maîtres sont chinois, donc ils enseignent en japonais, mais c'est quand même très fort.
Et sur les récits du dissident chinois quant à la politique de l'enfant unique qui a été assouplie depuis.
C'est bouleversant. C'est bouleversant ce qu'on entend. J'ai très envie de lire son livre. Par rapport à... alors, il y a d'autres livres très bouleversants, comme celui de Shinran sur The Good Women of China.
On va surtout citer le vôtre, parce que c'est vraiment le moment de se quitter. On est à la fin de l'émission, mais on pourra noter le reste sur notre page. Merci 7 beaucoup. Milliards de voisins. Vous publiez Confidences du Japon avec des illustrations d'ailleurs pleines d'humour de J.P. Nishi, c'est comme ça que je prononce.
Oui.
Jean-François Sabouret, votre dernier ouvrage était La Fabrique des Futurs.
Il y en a un qui sort dans 10 jours, à propos de l'exposition de Kikahiro. Ça s'appelle Tokyo, voyage à Asakusa, c'est-à-dire les gens de la ville basse.
Avec des très belles photos. Merci à vous deux d'être venus. À demain, 7 milliards de